si j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission d'En Jase, ton émission du midi, midi 1 exactement. On est ton émission d'actualité. Avec nous, tu sais, les nouvelles du jour. Et on analyse pour toi les grands dossiers. C'est clair qu'aujourd'hui, on parle de cette abolition de la taxe de l'essence pour un temps déterminé entre le 22 avril et le 7 septembre. Ça a été annoncé par Mark Carney. 10 sous de moins le litre à la pompe. Bonne nouvelle. 4 sous de moins pour le diesel. Bonne nouvelle pour nos agriculteurs, entre autres, qui demandaient un petit allègement fiscal. On va en parler avec Antonine Niacarini. On va également avoir Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal avec nous aux alentours de 12h40 là-dessus. On est mardi, c'est Rémi Villemur qui va être avec nous pour sa chronique habituelle. On va revenir, entre autres, sur Donald Trump et son image de Trump en Jésus. Je vous bénis, chers Américains.
Il était en médecin.
Ouais, je sais, bien, c'est une drôle de médecine, par exemple, parce qu'il met la main sur le front et la personne guérit.
Oui, c'est ça, c'est une médecine holistique, je sais pas quoi.
OK, d'accord. Je vais te croire, Anto.
Croyez en tout ça, oui, croyez.
C'est ça.
Croyez. Ayez la foi. Ayez la foi.
On va aussi avoir un bon sujet de discussion, c'est par rapport à la DPJ que j'appelle cette usine à fabriquer des itinérants. On va parler de ça, les jeunes de 18 ans qui partent avec deux sacs de vidange, leur affaire d'un sac de vidange, bonne chance dans la vie.
Quand ils n'en ont déjà pas eu.
Exactement, Mylène Moisan qui a écrit deux textes intéressants, là, un la semaine dernière et un ce matin. C'est par rapport à des enquêtes d'une coroner et justement qui est très critique envers la DPJ. Là, le texte d'aujourd'hui, c'est par rapport à un jeune de 18 ans qui est tombé dans l'itinérance après justement avoir voyagé de centre d'accueil en centre d'accueil. On l'avait retiré de son milieu familial parce qu'il y avait de la violence dans son milieu familial et qui a fini bien chaud un soir à se tirer devant le métro de Montréal. Donc, on va parler de ceci. Puis Mathias Turcotte va nous arriver justement avec une piste de solution justement qui est à Montréal. Une nouveauté d'un organisme communautaire qui est très intéressante puis que pourrait nous inspirer là, nécessairement pour Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. 418-971-1021 pour nous joindre par texto. Je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter via le blvd.fm avec la web radio, l'application BLVD 102.1 qui est disponible sur App Store et Google Play Store. Et si vous avez un écouteur intelligent, un haut-parleur intelligent, devrais-je dire, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on apparaît dans vos oreilles. Avant de passer au caucus avec Antonine Niacarini, segment qu'on a du lundi au jeudi de midi à 12h30. Pascal, on commence avec la taxe de l'essence, j'imagine, en actualité.
Ben oui, on attendait le point de presse depuis ce matin. On regardait ça, nous, on était attablés, Mathias, Maxime et moi, à savoir, bon, McCartney va annoncer quoi? Ben, c'est 10 cents de moins sur le litre d'essence, sur l'essence régulière, puis 4 cents du litre sur le diesel qui va être supprimé de votre facture. On veut un effet de réduction de facture, justement, à la borne à l'essence, mais c'est temporaire. Donc, la taxe d'assise fédérale sur le carburant puis le diesel, ben, c'est pour faire baisser le prix à la pompe dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient. On l'a très bien dit que c'était temporaire pour Mark Carney. Je pense qu'il va falloir revenir là-dessus dans les prochaines semaines et surveiller le tout. Le panier d'épicerie, l'habitation, les services, c'est ce que titrent les médias, entre autres Radio-Canada, sur les priorités de Christine Fréchette. Et c'est ce qu'elle a élaboré. Son assermentation, c'est pour demain 16h. Les députés de la CAQ vont participer ensuite à un caucus en soirée. Et ce qui a coulé dans la presse au courant de la dernière heure et demie, c'est un peu plus de chair autour de l'os quant aux rumeurs. Puis on en parlera avec Antonine dans un instant, mais l'ex-grand patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier, qui avait été, je pense, le messie pour la thématique d'aujourd'hui, pour plusieurs partis politiques, il est au centre de rumeurs pour la CAQ. Il a fait une vidéo pour rendre hommage à François Legault dans le congrès caquiste de dimanche. Et là, on apprenait aussi que le conjoint de Mme Fréchette, Guy Nadeau, c'est le vice-président de Desjardins Entreprises à Montréal. Est-ce que ça s'est jasé? Tiens, peut-être. Et son nom est sorti. Université Laval, Front commun contre l'opacité de l'administration d'Amour. Il y a des étudiants qui se disent, un, dans le malaise, deux, dans l'observation de décisions douteuse de la direction. C'est la rectrice de l'Université Laval qui fait face à un front commun. Donc, beaucoup d'associations étudiantes, des syndicats du campus qui parlent de cette non-transparence de l'administration de Sophie Damour. C'est dans notre cours et ça reste très important, je pense, parce que l'Université Laval va faire réagir, tu veux dire?
Oui, on va parler avec Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval à 13h30, justement. Il va nous parler de sa problématique avec la nouvelle politique de stationnement, l'abolition des cafétérias étudiantes et les deux projets immobiliers là, qui sont dans les cartons.
Et petite parole pour les libéraux de Mark Carney. Et on dit, les libéraux de Mark Carney n'ont pas obtenu une majorité grâce au vote des Canadiens. Ils ont obtenu une majorité avec des tractations en coulisses, avec des politiciens qui ont trahi les électeurs qui avaient voté pour eux. Ce sont un peu les premières appréhensions que l'on a à ce niveau-là. Mais Mark Carney est allé chercher sa majorité.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niacarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Niacarini. Abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 102.1. Vous allez pouvoir écouter Le Caucus en vidéo, tiens. Voir nos faces en studio, comment on interagit. Allez vous abonner en grand nombre. Le Caucus s'y retrouve à chaque jour. Antonin Niacarini, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Hey, ça bouge en politique pas à peu près.
Écoute.
C'est fun.
C'est du bonbon.
On trippe. On commence avec cette réduction justement de la taxe de l'essence. 10 sous pour les contribuables, ceux qui ont un véhicule ordinaire, devrais-je dire. 4 sous sur le diesel pour les autres, notamment les agriculteurs. C'est dans une période prédéterminée. Ça a compté de lundi prochain, le 20 avril, et ça jusqu'au 7 septembre prochain. Un bon coup du gouvernement Carney?
Oui, honnêtement, les gens vont accueillir ça probablement très favorablement. C'est sûr que le désavantage, bien, c'est toujours une perte de revenus pour le gouvernement. Puis on sait qu'on a des déficits sur tous les paliers de gouvernement, mais en même temps, ils ont bien fait de le mettre de manière temporaire. Parce que quand tu enlèves une taxe, bien, en fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes l'odieux à soit toi-même ou à quelqu'un d'autre de devoir éventuellement la remettre parce qu'on le sait que la situation en Iran n'est pas nécessairement permanente. Les prix peuvent fluctuer. Donc, on s'est mis une période. On verra probablement si l'automne prochain, la situation n'a pas changé. Bien, il y a toujours possibilité de rallonger la mesure comme telle. Puis, ça va avoir un impact sur un paquet de choses, un paquet de secteurs. Ça peut avoir un impact aussi sur le prix de consommation de certains produits. On va surveiller ça avec attention, mais le gouvernement fait un effort dans toute la chaîne, là, décide que bon, ben, c'est le gouvernement qui va faire un effort à ce niveau-là, ce qui va alléger un petit peu le portefeuille.
Ce que j'ai aimé, c'est qu'on fait cette annonce-là après les élections partielles.
Ouais, c'est... Oui,
ça aurait pu être vraiment très électoraliste de sortir, parce que Terrebonne, c'était serré, ça a fini par 731 votes, de sortir la semaine dernière et de dire « Savez-vous quoi? On a écouté les Canadiens. » Et on va réduire la taxe de l'essence. Mais non, on le fait après les élections partielles.
Mais en même temps, ça envoie un message. C'est « Bonjour, maintenant, on a notre majorité.
Ben » oui.
Rappelez-vous comment on est bon, justement. Puis oubliez donc qu'on est allé chercher une majorité à coup de transfuge.
Ouais.
Ben, une grosse nouvelle contre une grosse nouvelle.
Absolument, parce que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit « C'est drôle, les titres sont bons aujourd'hui. » Il est écrit « Victoire, tour du chapeau. » gain, je me disais pourquoi ils vont tout de suite gaspiller un cycle de nouvelles qui est déjà acquis positivement pour eux. Mais en fait, c'est que ça, je pense qu'ils voulaient envoyer un message fort. Voici comment agit un gouvernement majoritaire. Et ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas pu le faire comme gouvernement minoritaire.
Non, parce que les conservateurs auraient appuyé.
Ils sont d'accord.
D'ailleurs, la question des transferts a été posée en conférence de presse à Mark Carney, en entrevue aussi sur LCN par la suite à François-Philippe Champagne. Puis, je te laisse entendre comment il a contourné la question.
OK.
C'est que ça représente largement ce qu'on entend des Canadiens et Canadiennes à travers le pays. Moi, je vous dirais, M. Dumont, prenez une marche avec moi sur la rue, là. Vous allez voir, les gens comprennent exactement le plan qu'on a. Les gens voient comment c'est difficile dans le monde. Il y a un vent de face. Les gens sont unis. Ils disent, écoutez, c'est un moment sérieux. On a un gouvernement sérieux avec un chef sérieux.
Fait qu'il y a des transfuges parce qu'on est un gouvernement sérieux avec un chef sérieux. Dans un moment dans le monde qu'on n'a jamais vécu. Fait que c'est pour ça qu'ils transfèrent. C'est pas parce que nous autres, on est allés les chercher qu'on a fait du maraudage. Parce que Mark est tellement bon que les gens cognent à la porte.
Là, je vais donner quelque chose à François-Philippe Champagne. Ce qu'il dit est vrai, dans le sens qu'on l'entend beaucoup.
Ben
les
oui.
gens disent Thank God, on a un premier ministre qui est responsable, ça va bien. Ben, les gens l'appuient là, en ce moment.
De toute
on
façon,
le sent.
Dans les partiels d'hier, le score a augmenté dans les trois circonscriptions. Donc, c'est pas étranger au fait que les gens sont satisfaits à l'heure actuelle du travail de Mark Carney.
C'est ça. Puis il faut je pense, départager plusieurs choses, notamment le court terme et le long terme. Sur le court terme, ça va très bien pour les libéraux. Les gens sont pas insatisfaits, il n'y a pas de fronde. On pourrait se demander pourquoi les Québécois sont si contents compte tenu que M. Carney ne chouchoute pas particulièrement le Québec, ne se force pas tellement toujours à parler français, nous dit que notre histoire, il réécrit notre histoire. Mais pour l'instant, ça n'a aucune importance parce que la priorité des gens... C'est ce qu'il est en train de faire comme projet, c'est-à-dire transformer l'économie canadienne, bâtir des nouvelles alliances à l'international, essayer d'amoindrir les impacts de ce qui se passe avec les États-Unis. Et les gens se retournent vers l'alternative. Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative politique? Ils ont un Pierre Poilievre qu'on a du mal à imaginer dans le même rôle.
Oui.
OK, c'est un défi pour lui. Bon. Ensuite, on a le Bloc québécois qui, depuis un an, nous dit... Arrêtez de capoter pour rien avec Donald Trump là, puis de faire un culte à la personnalité de Mark Carney. Tu sais, je veux bien, mais tu sais, même Paul Saint-Pierre Plamondon à Québec, là, il a été obligé à un moment donné de dire « Hey, vous avez raison, on comprend l'anxiété des gens, on vous parle d'un référendum, mais on sera pas fou, là, on va être responsable. »
En effet.
Mais lui aussi, pendant longtemps, avait banalisé la chose puis disait hey, « c'est des anxiétés un peu irrationnelles. » Mais il a décidé de légitimer l'anxiété des gens puis de dire « Je comprends, là, c'est valide. » Et après ça, ils ont quoi? Le NPD qui était, je veux dire, bon, on n'en parle même plus.
C'est ça.
Ils ont fait combien de votes hier? Attends, 249 dans Terrebonne en vote.
Fait qu'il
n'y en a pas d'alternative non plus. Fait que ce que M. Champagne dit, c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai.
Maintenant, là, moi, je trouve qu'on commence à flirter avec quelque chose d'un peu dangereux. Gouvernement majoritaire égale stabilité. Oui, OK. Un premier ministre qui n'est pas à l'Assemblée, à la Chambre des communes, des oppositions qui sont affaiblies, des débats qui n'ont pas lieu.
C'est pas tant de la stabilité. Là.
Moi, je trouve que c'est de la stabilité à court terme. Ouais. C'est une illusion de stabilité. C'est malsain. Okay? Les oppositions, elles doivent pouvoir jouer leur rôle. Et le gouvernement, même s'il était majoritaire, minoritaire, M. Carney, il réussissait quand même à faire ce qu'il voulait faire. Okay? Il n'y a pas énormément de choses qui étaient limitées parce que les oppositions ne font pas d'obstruction.
Non, ben en plein ça, puis la question il a été posée en conférence de presse ce matin. Ils ont dit, écoutez, ce que vous annoncez là, matin, là, vous l'auriez annoncé même si vous étiez minoritaire.
Oui.
Parce que Pierre Poilievre aurait dit, ben oui, go.
Il aurait été d'accord. Mais je comprends qu'à un moment donné, je veux dire, ils ne sont pas fous, là. Tu viens de te garantir un autre 3 ans de gouvernement, tu as la paix, tu vas avoir tes comités vont être majoritaires, tu vas pouvoir avancer plus vite tes législations. Puis s'il y a des législations moins, bien accueillies de la part des oppositions, tu les passes pareil. C'est sûr que c'est mieux.
Ben oui, ben...
Mais là, tu sais, arrêtons de nous dire que c'est une question de stabilité. C'est une question de commodité pour les libéraux.
Bien sûr, question de commodité, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en même temps, je les comprends d'avoir travaillé à leur majorité. T'sais, si je fais juste regarder au plan politique, parce que c'est quoi qui nous parle, Mark Carney? Des grands projets.
Oui.
Des projets pour diversifier l'économie.
Mais il y a besoin de temps pour montrer
de temps,
des
y a
résultats.
Pas le choix.
Puis ça, c'est l'attaque des oppositions. C'est de dire, sont où les résultats? Mais tu sais, je veux dire... Qu'on soit libéral, pas libéral, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça arrive pas en 5 minutes, là, des résultats dans ce qu'on nous a présenté comme projet pour le Canada.
Puis dans le contexte, sûrement pas non plus. Tu l'as dit, tu l'effleures à chaque fois. On va aussi mettre beaucoup de lumière sur ce que Christine Fréchette va devoir accomplir dans un contexte vraiment court. Est-ce qu'on peut faire un pont commun entre les deux qui, dans la situation à ce moment-là, politique, ça peut être très difficile de garantir des résultats?
Bien, Christine Fréchette, c'est un tout autre dossier compte tenu qu'on parle en termes de semaines. Donc, évidemment, on
mais
est
dans
on
les
est ailleurs.
Enjeux, ouais.
Et aussi, sur la scène provinciale, on a beaucoup plus d'alternatives de partis politiques qu'au fédéral. Donc, M. Carney est beaucoup plus confortable comme tel. Maintenant, je dois dire, bien, bravo libéraux, parce que c'est une bonne opération de communication. Tu sais, en introduction, j'en parlais. Je vous dis, je vois des mots comme victoire, gain... tour du chapeau. Excusez, là, je veux juste être bien clair. Les trois partiels qui avaient lieu hier soir, c'était 3 comtés libéraux.
Ben oui.
C'est pas hier que la majorité a été acquise.
Non, c'est à coup de transfuge.
C'est quand Marilyn Gladue a décidé qu'elle traversait la Chambre et qu'on savait déjà qu'il y allait avoir 2 autres comtés supplémentaires qui allaient rentrer. Et Terrebonne, ben on le savait pas parce que c'était serré. Mais hier, c'était comme, tu sais, c'était un bon moment pour eux pour l'avoir leur majorité parce que tout le monde est en émission spéciale, puis là, c'est en direct, puis là, tu vois des gens qui mettent des petits votes dans des petites boîtes. Puis là, ça a l'air bien démocratique. Mais dans les faits, c'est pas ça le moment clé. Ils sont allés rechercher des comtés qu'ils avaient déjà.
Ben oui.
C'est les transfuges qui ont fait la différence. Et honnêtement, le danger, c'est que, tu sais, ce qui est important pour lui à court terme, c'est d'aller chercher sa majorité. Mais à long terme, ben, il y a un enjeu démocratique parce que les Canadiens ne lui avaient pas donné un gouvernement majoritaire. Bon, il est plus haut dans les sondages, ça peut justifier. Mais l'autre problème, c'est quoi les valeurs du Parti libéral? Parce que je veux juste vous dire, là, en ce moment, là, il y a Stephen Guilbeault et Marilyn Gladue qui sont assis à la même table. C'est quoi le rapport? C'est quoi le Parti libéral?
Je suis tellement contente que tu abordes le cas de Stephen Guilbeault parce que, pour moi, je les mets dans le même panier, Gladue et Guilbeault, et je t'explique pourquoi. Bon, Marilyn Gladue, elle a rien d'une libérale, là.
Non.
Elle est contre l'homosexualité puis l'avortement. Mm-hmm. OK, bon, fait qu'elle a rien d'une libérale. Stephen Guilbeault est assis là, donne la majorité en levant la main sur des projets de loi, alors que il se reconnaît plus pantoute dans ce parti-là. Il a sacré son camp du Conseil des ministres.
Exact. Mais quand ça va bien, Jeff, là, tout le monde avale des couleuvres.
C'est ça, hein?
Quand ça se remet à descendre dans les sondages, là, quand c'est moins drôle, là, puis que la lune de miel est passée, tout ça, là, ça se détricote, là, prrr, tout un coup. Regarde ce qui s'est passé à la CAQ. Hein? Il y avait un petit peu de tout pour tout le monde, du monde qui n'avait pas rapport ensemble.
En effet.
Quand ça se met à détricoter, ça détricote vite. Mais maintenant, ils sont majoritaires. Donc, là, ils sont beaucoup plus confortables. Et pour les oppositions, je veux dire, c'est extrêmement compliqué, là. Pierre Poilievre, il n'y a pas de punk depuis un an. Ça fait depuis que Justin Trudeau a annoncé qu'il s'en allait, qu'il ne sait pas comment se comporter.
On dit toujours, me semble, c'est toi qui nous avais dit ça, ça prend un méchant en politique, ah. Là, ça te prend un méchant à attaquer, puis là, il n'y en a plus de méchants.
Il n'y a plus de méchants à attaquer. Hier, dans Terrebonne, d'ailleurs, les conservateurs, 3,3 % le résultat. On peut penser qu'il y a pas mal de conservateurs qui ont dit, ben, je vais voter pour le Bloc, pour bloquer la majorité de M. Carney, mais quand même.
Ouais, mais
ça va pas très bien.
J'ai entendu. Moi, le fait aussi qu'on parle énormément des transfuges, mais que ça dérangeait pas trop l'électorat conservateur parce que, anyway, t'sais, dans Terrebonne, il y en a qui ont voté aussi pour Mark Carney.
C'est possible aussi. Il y a des gens en ce moment. Mais on est vraiment dans une période où c'est un peu difficile de définir chacun des partis politiques. Et je pense qu'à plus long terme, ça va finir par créer une problématique pour M. Carney, mais quand tu es en politique, tu dois gagner la journée. Okay? Le plus tard, là, tu t'arrangeras là, avec ça.
Puis là, ils ont gagné la journée en tabarouette.
Ils l'ont gagné.
C'est quoi le gain d'abord de pouvoir, je sais pas, accepter des candidats très conservateurs là, comme Mme Gladue du côté des libéraux? Parce que c'est sûr, il y a un gain, mais en même temps, ça se dénature. En ce moment, c'est plus ça qui nous apparaît. Voyons, c'est ça dénaturer. Donc, devenir majoritaire, c'est un gain pour Mike Carney où il paye une facture de se dénaturer qui estime plus faible que celle d'être majoritaire. Je cherche qu'est-ce que ça va lui donner d'aussi important.
Bien, c'est sa majorité. Puis ça veut dire qu'il y a 3 ans de plus devant lui. C'est extrêmement payant. Mais comme tu dis, c'est à crédit. Éventuellement, tu sais, il va avoir des intérêts à payer là-dessus.
Exactement.
Là. Puis, tu sais, Marilyn Gladue, là, à Mané, là, il va avoir un problème.
C'est
sûr. Elle va te dire quelque chose, ça marchera pas. Puis là, M. Carney, il flotte par-dessus tout le monde là, en ce moment. Là. C'est la grande lune de miel. Puis c'est juste ça, le socle commun en ce moment du Parti libéral. C'est lui. T'sais, j'entendais M. Blanchette au Bloc, je ne suis pas toujours convaincue de leur message clair en ce moment, mais il n'y a pas tort quand il dit que c'est un culte de la personnalité. Là.
Ah, ben
c'est
oui.
On suit Marc. Là. C'est ça là,
ben oui.
Qui se passe en ce moment. Puis au niveau démocratique, je m'excuse, mais les électeurs sont pas particulièrement respectés là, quand on fait traverser des conservateurs comme ça. En tout cas, je trouve que c'est très discutable et je n'accepte pas qu'on dise que M. Carney est allé chercher sa majorité avec des partiels. C'est
moi non
faux.
Plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu viens d'aborder Yves-François Blanchette. Il va arriver quoi avec le Bloc québécois?
Écoute, premièrement, l'élection d'hier, c'est une grosse claque d'en face.
Bien,
là, ils vont essayer de la minimiser, là, mais s'ils l'avaient gagnée, ils l'auraient maximisée.
Oui, oui, okay? Mais c'est une grosse claque d'en face parce que, tu sais, le Bloc a moins de députés qu'il y en avait avant l'élection du 28 avril dernier. Là, on vient de perdre dans Terrebonne. Bon, il y en a qui vont dire, hey, c'est juste une marge de 731 votes. Oui, mais il faut savoir si c'était un vote de différence la dernière
la
fois.
La dernière fois, c'était plus serré. C'est moins
ça.
Serré. Le Bloc, l'année dernière, était dans une position presque aussi inconfortable que Pierre Poilievre. Okay? Il faut le dire. C'est juste que le Bloc bénéficie un peu T'sais, les gens ne savent pas trop. Ils regardent les conservateurs, ils trouvent qu'ils sont débiles. Ils regardent les libéraux, ils disent « je ne suis pas capable de voter pour eux autres ». Fait qu'ils se disent « bon, je vais voter pour le Bloc ». Donc, mais ils ont quand même perdu pas mal de plumes. Ils ont perdu des comtés dans les couronnes, Laurentides, Montérégie, notamment, Lanaudière, qui ont été toujours des terreaux assez fertiles, que ce soit pour les partis nationalistes au provincial ou au fédéral, que les libéraux soient allés chercher des gains, là, tu sais, dans Longueuil, là. Tu sais, Natilien Joseph.
Ah, c'est ça.
Je veux dire, ça a été gaffe par-dessus gaffe pendant la campagne. C'était pas, excusez, c'est pas un CV extraordinaire. Puis il est allé prendre un comté à un bloquiste très, très motivé, assez connu quand même, M. Trudel. Donc, c'était pas des bonnes nouvelles pour le Bloc déjà l'année dernière. Mais la très mauvaise nouvelle pour le Bloc, c'est qu'un an plus tard, rien n'a changé, là. OK?
Exactement.
La balloune n'a pas dégonflé. Même si on n'est plus dans Trump à toutes les cinq secondes, ils n'ont pas été capables de monter leur score, au contraire. Puis c'est sûr que ça paraît mal quand tu t'es battu jusqu'en Cour suprême pour faire une élection puis d'avoir un résultat moins bon que la dernière fois. Il n'y a personne qui va dire que c'est une bonne nouvelle, là, je m'excuse. Donc, je trouve que le Bloc, en ce moment, est dans une période très difficile. Puis si c'était un autre parti, le chef serait sur la sellette en ce moment. Mm-hmm. Les gens diraient ça marche pas, là.
Ouais.
Mais c'est le Bloc. T'sais. Fait que le Bloc, vu qu'on ne s'attend pas à ce qu'il gagne une élection, puis on ne sait pas c'est quoi une victoire du Bloc, objectivement. C'est quoi?
Le savent-ils?
Mais c'est quoi? C'est-tu 10 députés? Non, 20 députés? 30 députés?
Comment ils pensent qu'ils défendent assez le Québec, mettons?
C'est ça. Quels gains ont-ils fait? T'sais?
Ils vont toujours être capables de twister ça pour faire croire que c'est une victoire. Hey, on n'est pas loin de la balance du pouvoir.
Ben oui. On est quand même chanceux des avoir, t'sais, dans certaines situations.
Absolument.
Là,
c'est juste que c'est juste flou. Oui. Les indicateurs de performance ne sont pas clairs.
À quel moment ils ont un pouvoir?
Puis, tu sais, Yves-François Blanchette, ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est chef.
Ben,
okay?
Y a-tu quelqu'un d'autre ou dans les parages qui pourrait.
Ben oui, je pense qu'il y a des députés qui sont très forts, puis il pourrait avoir d'autres gens qui veulent reprendre. Mais cela dit, il n'est pas dans la chenoute, là,
non,
François Blanchet. Mais c'est vrai qu'il y a moins l'effet de nouveauté. C'est parce que M. Blanchet arrivait aussi après une série de déboires là, pour le Bloc, là, Martine Ouellet.
Exactement.
Pour ne pas la nommer.
Énormément de
Donc,
déboires.
Il est arrivé un peu comme un sauveur, tu sais, puis c'est un bon communicateur, somme toute, même si je trouve qu'il parle beaucoup, des fois, pour dire des choses qui pourraient être plus simplement apportées. Mais c'est un bon communicateur, c'est un gars qui a de l'expérience, et son caucus est très uni autour de lui. Mm-hmm. Si c'était n'importe quel parti, avec les résultats dans les dernières élections,
en effet.
Je pense qu'il serait un petit peu dans une situation plus périlleuse comme telle. Puis, honnêtement, ils font un bon travail sur plusieurs dossiers. T'sais, on a parlé des chauffeurs à rabais ensemble à quelques reprises. Le député Xavier Barsalou-Duval a fait un bon travail pour essayer de mettre ce dossier-là sur la map. Sur Curam, ils font un bon travail. Mais ils ont de la misère à percer le mur du son. Hein? On les voit pas tant que ça là, dans les médias au Québec. Ils réussissent pas à
en
se
effet,
positionner depuis
pas
un
Pas du
an.
Tout. On verra avec l'élection provinciale aussi, à savoir ce qui va arriver avec le PQ. Ça pourra nous donner un bon indicateur. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de midi à 12h30 du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Bon, en tout, parlons de notre nouvelle première ministre, Christine Fréchette, qui donnait son premier point de presse hier. Tes premières impressions?
Écoute, j'ai pas été impressionnée.
C'était plate.
OK, c'est un petit peu plate. En même temps, est-ce que les gens ont envie d'un petit peu plus de platitude? C'est possible. Regarde, Charles Milliard n'est pas là, un bout en train de tous les instants non plus. Mais je m'interroge, puis je vais vous poser la question, je vous la renvoie. C'est quoi le message de Christine Fréchette depuis dimanche?
Bien, écoute, j'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui en réécoutant la conférence de presse. J'ai regardé justement dans les projets qu'elle promettait, dans ce qu'elle voulait pas faire. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose de clair, à part qu'elle veut ramener les nationalistes.
Bien, notre parti, c'est le parti du nationalisme et de l'économie. On est le croisement de ces deux éléments-là, puis on est le seul parti à être au croisement de ces deux éléments-là, qui sont d'importance parce que ce sont ceux qui représentent le mieux les Québécois. À mon point de vue, les Québécois sont majoritairement nationalistes, sont très majoritairement en faveur du développement économique, et c'est ce que nous sommes. Le Parti québécois, de son côté, est souverainiste. Donc, nous, on est plus large que ça, on est nationalistes. Eux sont souverainistes.
Ah, je suis convaincu tout à coup.
Bien, là, attends, parce que sur le fond des choses, je sais que tu vas avoir des choses à répondre à ça, mais sur la forme, je veux juste dire que c'est pas un mauvais message. C'est juste qu'il est noyé par 60 000 autres messages.
En effet.
Parce que c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai, Jeff, puis là, tu vas me dire, je suis convaincue, fait que je veux te laisser t'expliquer. Là.
Vas-y.
Mais la majorité des gens sont nationalistes, oui, mais non souverainistes en ce moment au Québec. C'est un fait.
Oui, sauf que là, deux mois, Charles Milliard, il a dit « Je suis nationaliste, nous sommes le parti de l'économie et nous sommes le parti de la saine gestion des finances
T'as
publiques. »
T'as un point, c'est juste que c'est pas vrai qu'ils sont nationalistes. Je m'excuse.
Je le sais, mais...
C'est de bon ton de dire ça, Mais dites-moi, concrètement, langue, immigration, laïcité, mm-hmm. qu'est-ce que ça veut dire? Puis je vais t'arriver avec la conclusion qu'ils ne le sont pas.
Ah, je sais, je suis entièrement d'accord avec toi. La problématique, puis je rejoins la chronique d'Antoine Robitaille aujourd'hui dans le Journal de Québec, c'est que j'avais l'impression d'entendre une chef du Parti libéral hier.
Bien, les gens ont beaucoup de difficultés à faire la différence. Puis je voyais Michel David, notamment, du Devoir, qui disait que ce discours aurait pu être prononcé par Charles Milliard. Ça va être un problème.
Oui, ça va être un problème.
C'est encore un chevauchement que tu évoques depuis le début de la chronique, mm-hmm. autant dans l'électorat que dans ouais. les positions.
Ben, ouais. La raison pour laquelle ça va être un problème, c'est parce que la CAQ était forte quand elle est allée chercher des votes au PQ.
Oui.
Puis là, on écoute Christine Fréchette, puis on entend le Parti libéral.
On a l'impression qu'on va aller chercher des électeurs plus libéraux.
Oui, mais ça n'arrivera pas.
Je sais pas, parce que honnêtement, je regardais dans les sondages, puis chez les sympathisants libéraux, effectivement, il y avait une certaine cote d'amour pour Mme Fréchette. Mais la vraie bonne stratégie, c'est de se dire que le PQ va redescendre.
Ouais.
Puis d'aller rechercher les votes nationalistes.
En plein ça.
Mais on va voir. Mais puis je te repose la question, Pascal. En un mot, qu'est-ce que tu retiens de l'arrivée de Pascal Fréchette, nouvelle première ministre? Qu'est-ce que l'histoire va retenir?
Je retiens Radio-Canada parce que c'est eux qui m'ont donné un peu plus d'informations sur ses priorités.
Ah, bon.
Fait que c'est panier d'épicerie, habitation, service. Il a fallu gratouiller. Puis c'est là où je te rejoins complètement.
Parce que ça, c'est un autre message que je trouve quand même positif, la question d'alléger le portefeuille. Parce que mm-hmm. là, tu m'as dit, j'ai fait un appel aux nationalistes, chef.
Oui.
C'est un bon message. Je veux alléger le portefeuille des Québécois. C'est un bon message.
Oui.
C'est deux bons messages, mais déjà, tu en as deux.
Mm-hmm.
OK? Mais là, en plus, tu commences à commenter. Évidemment qu'elle a eu 1000 questions dans sa tournée d'entrevue sur comment elle allait composer son conseil des ministres. Là, je veux juste dire là, que soit t'en parles, soit t'en parles pas. OK? Elle a décidé qu'elle allait présenter son conseil des ministres la semaine prochaine. Donc, ta tactique de communication pendant tes entrevues, là, c'est de dire « Je ne vais pas parler du conseil des ministres cette semaine.
Mm-hmm. » Mais tu vois, voici sa réponse hier en conférence de presse par rapport au Conseil des ministres.
Il faut prendre en considération les besoins des Québécois, la capacité du gouvernement de prendre action, les compétences des gens concernés, le changement qu'on veut incarner, la question de la parité. Moi, je voudrais être en zone paritaire, ça c'est certain. Et également la représentativité des différentes régions. Donc,
il y en a des éléments.
C'est un exercice qui est difficile, complexe
ah, ouais.
et qui sera d'impact.
Okay.
Et qu'on a entamé, je vous dirais, mais on n'a pas encore complété cet exercice-là.
Ben non,
c'est sûr qu'il y a plusieurs versions qui vont exister. Malheureusement, on ne pourra pas intégrer tout le monde que l'on voudra intégrer.
Plusieurs
ça, c'est
versions.
Malheureux, ouais. mais c'est la réalité dans laquelle on se trouve.
C'est malheureux.
Alors, je n'ai pas encore de date pour vous, pour ce qui est de la composition de ce conseil.
Plus plate que ça, plus politicienne que ça, ça se fait pas, là.
Bien, en fait, tant qu'à être plate de même, soit vraiment plate.
Bien, tu sais, exactement.
Je suis pas prête à vous parler de mon conseil des ministres. Prochaine question. Moi, aujourd'hui, j'ai des mesures à présenter. Vous allez me laisser faire mon conseil des ministres de mon côté. Merci. Puis, troisièmement, là, c'est compliqué. Ouf, c'est dur. Hey, c'est malheureux. Hey, t'es-tu contente d'être première ministre, là?
Bien, c'est Voyons. Ça. T'es quelqu'un qui veut redonner une chance à la CAQ, mettons. Là.
Hey,
puis, tu sais, pour de
ah,
vrai,
ouais, là,
je pourrais faire partie de ces électeurs-là. Je suis orphelin politique à l'heure actuelle au provincial.
Un cœur à prendre.
Donc, je suis un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre pour la souveraineté. Je suis un cœur à prendre pour le camp du Nord.
Ça, non, là, arrête avec ça. Là.
Ben non, mais c'est vrai.
Non, non.
Tu me dis que la souveraineté va marcher au niveau économique, j'embarque.
Ouais, moi, je suis non.
Je te le dis.
Moi, je t'ai pointé adversaire dans mon pointage. Puis
je
perds plus de temps à essayer de te convaincre.
Mais bref, tu sais, je suis un cœur à prendre. Quand j'entends des réponses de même, j'ai le goût de me sauver en courant.
Ben, c'est ça.
Puis d'aller m'asseoir avec Charles Milliard, Éric Duhaime ou PSPP, de leur dire « Parlez-moi ».
Puis c'est cruel, Jeff, parce qu'elle n'est pas mauvaise, là.
Non, 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 non.
OK? C'est bien correct. C'est juste que c'est un moment super crucial pour la CAQ, là.
Elle ne mettra pas le feu.
Non.
Puis ça prend quelqu'un qui va venir rechercher un peu par les émotions. Parce que, tu sais, quand elle dit « Je suis le parti de l'économie avec les décisions de la CAQ dans les quatre dernières années », tu sais, je regarde les textos qui rentrent.
Oui, mais elle n'a pas le choix. Mais elle n'a pas le choix de continuer
à
le dire. Oui, mais elle n'a pas le choix de continuer à le dire. En plus, c'est une de ses forces. Puis les gens le savent qu'elle est plus studieuse que M. Legault qui était pressé des fois, puis ça allait un petit peu vite. Donc, moi, je pense qu'elle a un bon message. C'est juste que c'est pas clair, c'est noyé dans plein d'affaires, puis c'est dans l'attitude. Ça, moi, je trouve que malheureusement, ça renforce l'étiquette que M. Drainville lui avait mise
ben oui.
d'être hésitante.
Mm-hmm.
Là, il faut être un peu plus catégorique. Puis la fenêtre qui s'est ouverte du moment où est-ce que son nom est apparu sur l'écran, là, dimanche, là, à la nomination du Conseil des ministres, c'est une fenêtre importante. Il faut que tu envoies un message clair. Là, commencer à dire... C'est parce qu'à chaque entrevue qu'elle a faite, ça fait une nouvelle...
Ben là, c'est parce qu'à chaque entrevue qu'elle a faite, elle a fait... Ah oui, Simon-Jolin Barrette va être dans le Conseil des ministres.
Là, ah autre... ben non, il sera pas leader.
C'est ça. Là, autre entrevue. Ben oui, il savait bien qu'on va faire de la place à Bernard. Là, autre entrevue. Ah ouais, savez-vous quoi? Il pourrait avoir des non-élus. Là, on s'en va où, là?
Puis là, on a appris dans une autre entrevue que c'était pas nécessaire de se représenter pour être dans le Conseil des ministres. Hey, là, arrêtez de partir des nouveaux cycles de nouvelles à chaque entrevue.
Exactement.
C'est quoi le message cette semaine, tu sais? Puis je trouve que c'est un petit peu une occasion manquée. Puis on le sait que chaque semaine, comme première ministre de Christine Fréchette, est cruciale. Mais celle-ci, là...
C'est sûr!
C'était la plus cruciale.
Moi, hier, là, la réponse plate de politicien que j'ai fait entendre, là, moi, hier, j'aurais résumé en 12 secondes et quart.
Ah oui, vas-y.
Conseil des ministres, parfait. Savez-vous quoi? Ça va brasser en crime. Parce que la CAQ, là, si on regarde dans les sondages, là, on a perdu complètement la confiance de l'électorat. J'ai un mois pour leur gagner cette confiance-là. Checkez-moi bien avec mon nouveau conseil des ministres. Puis, by the way, il risque d'avoir des non-élus. Next question.
Bon, tu vois, venant de toi, ça fait... Mais j'imagine pas du tout Christine Fréchette dire ça. Il aurait fallu qu'elle le trouve à sa sauce.
Ouais, en effet.
Ça va brasser, tu sais, puis on a mal, tu sais, je l'imagine moins, mais de dire quelque chose de clair, net, précis comme ça et de marteler ton message. Et tu sais, nous, là, on n'aime pas ça quand les gens martèlent leur message parce qu'on trouve ça plate. En passant, moi, je prêche contre ma paroisse, là. À chaque fois qu'à part un nouveau cycle de nouvelles, j'ai 6 chroniques qui s'ajoutent dans mon agenda. Ça va super bien, là.
En effet.
Moi, je l'essaie juste de mettre à leur place, puis je me dis, t'essaies de remonter la CAQ. Le temps est précieux. Il faut que ta flèche arrive dans le milieu de la cible.
Ben oui!
Puis le discours de dimanche, il était correct, là. Puis honnêtement, là, moi, là, vous montez sur une scène, puis il faut que le monde applaudisse au bon moment, puis c'est dur. Oh, okay? Non, imaginez-vous non. Un instant faire
mais
ça,
je
là.
Je suis de la génération X pendant 3 minutes.
Mais c'est
un
moment...
On a ouvert les fenêtres du printemps.
Je vais vous conter une anecdote avant de finir.
Croustillant, on est là.
Croustillant, course à la chefferie du PQ 2014-2015, c'est Pierre-Carl Péladeau qui l'a remporté. Pierre-Carl Péladeau... Pierre-Carl Péladeau, c'était pas un grand orateur.
Ah non, vraiment pas. Je l'ai vu donner des conférences de presse. C'est tough.
C'est tough. Mais je dois dire que ce soir-là, son discours de victoire, ça paraissait que ça avait été travaillé, pensé, chaque mot. Puis je sais qui a travaillé sur son allocution. Moi, je n'étais pas dans son équipe. J'étais dans l'équipe d'intérim, fait que j'étais neutre. Mais... Et je sais le travail qu'ils avaient mis là-dedans parce qu'ils savaient que c'était un moment historique. Bon, ça a fait pouet-pouet Pierre-Carl parce qu'il est parti finalement. Mais... Tous les yeux étaient tournés vers lui, même les yeux à l'international, parce qu'un homme d'affaires connu du Québec devenait chef d'un parti séparatiste. Vous comprenez, ça intéressait le Canada anglais, puis ça intéressait même au-delà des frontières du Canada.
Homme d'affaires dans les médias aussi.
Donc, il ne pouvait pas manquer son coup.
Oui.
Et il a pesé chaque mot. Il y avait même une partie de son discours qui était en anglais. Il y avait un message pour les anglophones. Il y avait un message qui concernait les peuples autochtones aussi. C'était réfléchi. J'ai pas eu cette impression dimanche avec Mme Fréchette qu'ils ont peut-être compris l'ampleur historique que ça avait quand même.
En effet, deuxième femme première ministre,
ben oui.
Première chef de la CAQ. Et ils l'ont vraiment pas compris parce que voici le début de son discours.
Vous avez voté pour un autre style de leadership. Pour qu'une nouvelle génération soit à la tête du Québec. Oui, je fais partie de la génération X. Voilà. Une génération résiliente, pragmatique et capable de transformer les défis en solutions concrètes. Une génération qui comprend les aspirations des plus jeunes, tout comme les inquiétudes de ceux qui les ont précédés.
Ouais.
C'est correct. Mais
c'est pas suffisant pour monter à CAQ.
Non, puis pour vrai, l'angle de la génération, j'ai
moi, j'ai pas compris ce là tu veux.
Oui, parce que...
J'ai pas du tout compris là, la part pour qui, là,
mais c'est
te
ça.
Dire
enfin...
ça.
Non, c'est ça.
Qui s'y reconnaît plus, parce que Mme Fréchette a dit ça. Antonine, est-ce que c'est parce qu'il voulait pas trop déranger, parce qu'il savait que c'était pas une élection sur la personne, mais bien au sein de la CAQ et avec les membres?
Je le sais pas, honnêtement. Moi, je ne peux que commenter le résultat. J'ai trouvé qu'on était passé à côté de quelque chose cette semaine.
Moi aussi.
Et encore une fois, c'est ingrat. C'est dur, là.
Ouais.
Elle, là, je veux dire, il y a 6 mois, personne ne la voyait là. Elle est première ministre du Québec.
En effet.
Puis elle a fait un bon travail pendant la campagne. Elle a fait des bons débats. Mais là, pour sa tournée d'entrevue puis le discours, tu sais, c'est B+, mettons.
Bien, c'est parce que les Québécois ont besoin de voir quelqu'un qui va aller se battre.
Mais c'est parce que la pente est tellement abrupte.
T'sais, j'écoute Christine Fréchette, puis j'entends François Legault, moi, les jokes.
Tu t'ennuies des jokes?
Ben au moins, j'avais François avec des jokes.
Mais pas François avec les enfants.
Non, on s'en est pas
ça. Encore. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'impressionne pas du tout. C'est ma propre opinion. Moi, ça serait plus un « c'est
moins ».
Puis
en terminant, tu l'as dit tantôt, mais on nous parle de peut-être ministre non élu. Je tiens à dire qu'on en a jasé hier.
Oui, vas-y. Hein, ben
vous
oui.
l'aurez entendu ici avant que la presse et tous les autres
Tu nous avais parlé de quelqu'un du milieu des affaires, l'économie.
Milieu financier.
Attends, je vais réfléchir. Guy Cormier!
Donc, le nom est sorti aujourd'hui. Je fais toujours attention parce que, tu sais, de se faire mettre sur la sellette comme ça, sans
correct.
Ton consentement, moi, je fais attention. Mais là, le nom a commencé à circuler plus sérieusement. On l'a entendu aussi circuler pour faire la chefferie de la CAQ, mm-hmm. carrément. Son nom avait même circulé pour la chefferie du Parti libéral.
Oui.
Encore là, il y a une petite confusion. Mais
c'est ça.
on revient un peu à la même problématique. Des ministres non élus, en passant, c'est assez rare au Québec, mais ça peut arriver.
C'est arrivé avec François Legault.
C'est arrivé avec François Legault dans le Conseil des ministres de Bernard Landry quand il a succédé à Jacques Parizeau. C'est quelque chose qui a eu lieu. C'est arrivé au fédéral aussi, Michael Fortier, que vous connaissez
peut-être.
Oui, c'est vrai,
je me souviens.
On voit des fois dans certaines mm-hmm. émissions de télévision, a été aussi ministre non élu sur la scène fédérale. Ça peut montrer que tu es capable d'aller chercher des nouveaux visages. Parce que quand tu essaies de faire du neuf avec du vieux, c'est sûr que c'est plus difficile. Fait que ça pourrait. Mais en même temps, c'est un risque aussi parce que... Ben, je veux dire, le risque de couac est peut-être un peu plus élevé.
Tant qu'à mettre quelqu'un qui ne se représente pas comme Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault, c'est bien mettre un non-élu.
C'est pas fou.
Tu sais, si tu mets Guy Cormier puis Olivier Primo, tiens, qu'on a parlé hier là, au Conseil des ministres, ça a pas mal plus d'impact.
Je pense pas qu'Olivier va aller là.
Ça a pas mal plus d'impact que Sonia Lebel puis Geneviève Guilbeault.
On s'entend,
hein?
Ça, au moins, ça a l'avantage qu'on essaie quelque chose qu'on ose.
Oui.
Donc, c'est pas beige.
Ben, ça a l'avantage d'attirer le regard.
Ouais.
D'attirer les gens.
Ça va nous faire jaser si ça arrive. Alors.
Imagine, moi, ça m'attirerait peut-être vers. Comme ça m'attire.
Mais
comme...
qu'est-ce qui t'attirerait vers?
Comme PSPP m'attire vers la souveraineté.
Mais ça t'attirerait vers la CAQ?
Ben, c'est parce que, tu sais, honnêtement, Guy Cormier, c'est une personne qui est très ferrée, très compétente au niveau économique, au niveau finance. Donc, tu sais, moi, je porterais une attention particulière à une candidature comme ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Je trouverais que la CAQ se renouvelle.
Ça suscite l'attention.
Oui. Est-ce que je voterais pour la CAQ?
Mais c'est vrai parce que le monde n'écoute plus la CAQ. Est-ce que ça amènerait une écoute? Tu sais, l'arrivée d'un nouveau chef, déjà, ça ouvre un peu les perspectives.
Oui.
Puis là, d'avoir des nouveaux visages au Conseil des ministres.
Exactement.
Avec quelqu'un d'aussi crédible pendant que les autres ont quitté le bateau.
C'est ça. Oui, autant mieux entendre Guy Cormier me parler d'économie que Jean Boulay.
Mm-hmm.
Hein?
Yeah.
On est d'accord?
Mm-hmm.
Ah, je savais qu'on terminerait d'accord. C'est le caucus avec Antonine Iaccarini. On a fait un peu d'extra aujourd'hui. Et Antonine, tu fais de l'extra parce que tu vas être dans le retour.
Oui, tout l'après-midi dans le retour aussi.
Yes, avec les girls.
Avec
Denis Gravel est en congé. Donc, trio de girls. Audrey Pinchot, Véronique Bergeron et Antonine Iaccarini. Audrey nous a envoyé le line-up. Vous allez notamment parler d'Hongrie et d'Iran avec Éric Sauvé à 16h30.
C'est bien la Hongrie hein, et pas les l'ongle gris.
Oui, exactement. Je l'ai mal dit. Hein. À 17h, Élise Berger-Pelletier va venir nous parler d'actualité en santé, urgentologue que vous entendez régulièrement. Il y aura SOS Nancy qui va être là aussi et Alex Leblond pour sa chronique financière actualité. Donc, manquez pas le retour des girls. Véro Bergeron, Audrey Pinchot et Antonine Iaccarini. À tantôt!
À tantôt!
Après la pause, on jase avec Gabriel Giguère justement de cette diminution de la taxe de l'essence annoncée par le gouvernement fédéral. Et on va parler de cette DPJ qui est une usine à construire des itinérants. Restez avec nous à l'émission d'En jase sur Boulevard 102.1.
Jusqu'à